Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Madame de Saint-Pierre.
Bonjour.
Isor de Saint-Pierre, Thierry Bouclier.
Bonjour Benoît.
Donc l'auteur de cette biographie, Michel de Saint-Pierre, une biographie chez Via Romana. Et bonjour Rémi Perrin.
Bonjour Benoît.
Directeur de collection aux éditions Via Romana. Voilà. Alors vous êtes présent évidemment pour évoquer la figure de l'écrivain, du très grand écrivain, Michel de Saint-Pierre, puisque vous venez de lui consacrer une biographie. Qu'est-ce qui vous a conduit, madame, à confier vos documents, vos archives, à Thierry Bouclier pour effectuer cette remarquable compilation?
Mais d'abord, nous nous sommes rencontrés avec aussi son directeur de collection, et j'ai trouvé que ces deux personnes avaient l'air très honnêtes, c'était important, qu'elles aimaient mon père, ce qui était important aussi. De toute façon, je ne pouvais rien empêcher, chacun peut écrire ce qu'il veut, mais j'aurais pu ne pas signer le document. Mais je trouve que c'était, plus on cède de documents, Thierry a aussi beaucoup consulté les archives, etc., les archives nationales,
des choses nationales.
Comme ça. Mais je trouve que plus on confie de documents, plus la biographie se rapproche de ce qu'était vraiment mon père. Et moi, je suis tellement contente que vous nous invitiez aujourd'hui, tellement contente qu'il y ait un livre sur lui, que l'éditeur et Thierry Bouclier aient consacré cette jolie biographie. Mon père est oublié, ça me fait beaucoup de peine.
Oui, il est au purgatoire des écrivains d'une manière totalement injuste.
Et le purgatoire est pour tous les écrivains. Hein. Je trouve que sur TikTok et tout, ça ne va pas très loin.
Alors, ce qui est frappant chez votre père, c'est qu'il, on peut dire vraiment qu'il cristallise à la fois une vraie carrière d'écrivain, de journaliste, d'écrivain, et également d'engagement, on peut dire, au service de la France et de la cité.
Moi, je ne l'ai pas du tout encouragé dans son rôle de polémiste. Je voulais que mon père, on a eu des discussions, ma mère était d'ailleurs assez de mon avis, je voulais que mon père continue dans sa veine de grand romancier. Et je pense que trop de combats lui a... Oui. Même si
on a l'impression qu'il s'est presque un peu dispersé.
Un peu
et
dispersé.
Notamment, il s'est presque toujours trompé en politique. Je suis peut-être un peu dur en disant
non,
ça.
Non, il y a des choix politiques mais de mon père qui n'étaient pas du tout les miens.
Le Parti des Forces Nouvelles, etc., tout ça, ça n'a jamais abouti à
quelque
chose.
Et puis, est-ce qu'il fallait se battre aussi fort pour une messe en latin? Chacun a le droit de dire, écoutez, une messe en latin ou une messe en français. Je ne trouve pas ça très important.
Alors, mais c'est souligner... tout de même important d'avoir défendu la langue latine dans la liturgie.
Oui, parce qu'elle est universelle.
Oui.
Mais... Bon, mon père était très croyant, oui. Et c'est bien d'avoir dit que l'Église connaissait un réel problème, oui. Que les prêtres ouvriers étaient devenus des syndicalistes, tout ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais j'aurais aimé que le combat... C'était bien aussi d'avoir empêché Salan d'être fusillé. Saint-Thierry, il n'a pas pu le sauver, c'est dommage, parce que cet attentat, ils avaient tort. Mais Saint-Thierry était père, je crois, de 5 enfants, tout ça était... Ça aurait eu du panache de le gracier, voilà.
Mais votre père est une figure incroyablement inclassable.
De toute façon, vous ne pouvez même pas savoir comment était mon père. C'était un bon vivant. Oui. Il aimait la bonne chair, il aimait les bons vins. C'était un charmeur, vous le dites très bien, Thierry, sous la plume de Monseigneur Gilles Vac.
Son père était déjà un homme assez exceptionnel, Louis de Saint-Pierre.
Ah, mon grand-père était... Oui. Mes deux grands-parents...
Homme athlétique, maigre, sensibilité mesurée, courtoisie, que l'on ne trouve que chez beaucoup d'hommes forts, et cette jeunesse que le sport laisse à l'esprit quand il délaisse le corps.
Et mon grand-père était en fait complètement original, et ma grand-mère aussi, ils travaillaient ensemble. Ma grand-mère avait une très jolie plume, et c'était surtout elle qui écrivait. Elle a même fait un feuilleton qui était très amusant dans François. Et en fait, ils avaient un bureau très joli dans notre château Troubadour, pas terrible. C'était une bibliothèque en mezzanine. Ils travaillaient ensemble sur le même bureau, l'un en face de l'autre. Et moi, je lisais mon journal à la mezzanine, sans faire de bruit. Et de temps en temps, mon grand-père sortait, vous savez, une guimbarde. Des petits, on appelait ça aussi des bidules. Vous voyez, un petit instrument de musique qu'on met contre la bouche.
Oui, oui, je vois.
Et il disait, chut, taisez-vous, je fais ça pour mes araignées. Et toutes les araignées sortaient. Mon grand-père disait qu'elles dansaient, ça je ne suis pas sûre. Mais elles sortaient et on avait l'interdiction totale de tuer les araignées, parce que mon grand-père les adorait.
Vous-même, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Michel de Saint-Pierre ?
Alors moi, j'ai lu Michel de Saint-Pierre lorsque j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai lu Les Aristocrates, j'ai lu les Nouveaux Prêtres, donc c'est un écrivain que
j'ai... Les Nouveaux Aristocrates n'ont rien à voir avec les Aristocrates.
Exactement. Donc voilà, donc c'est un écrivain dont j'avais gardé un très bon souvenir. Et ça, c'est vraiment une petite anecdote. J'avais vu enfant, mais bien sûr sans savoir que c'était tiré du livre de Michel de Saint-Pierre, L'Accusé. En feuilleton à la télévision. Oui. Mais j'étais encore très, très enfant. Et j'avais gardé quelques images. Donc, j'ai revu la série récemment. Et effectivement, il y a un certain nombre de scènes que je n'avais pas oubliées, qui m'avaient marqué. Voilà. Alors, peut-être qu'effectivement, inconsciemment...
C'est un livre féministe. C'est un livre féministe.
J'étais au MLF, il ne faut pas oublier. Et j'ai beaucoup influencé mon père.
Ah, je savais pas.
Mais mon père m'a élevé...
Avouez que ce livre-là est... Absolument magnifique pour défendre les femmes
mais tout à fait.
Qui, à l'époque, dont la parole était considérée.
Mais mon père
comme
était convaincu. J'avais après moi trois frères et une petite sœur. Et mon père, les filles et les garçons étaient élevés exactement de la même manière. Il ne s'agissait pas que les garçons se tournaient pouce pendant que les filles faisaient la vaisselle. On n'a pas du tout été élevés comme ça. Tout le monde avait les mêmes droits.
L'accusé, donc c'est effectivement, moi je trouve que c'est un des romans de Michel Saint-Pierre que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Et ce qui me fait
très
plaisir,
moderne.
C'est que je l'ai fait lire à mes enfants, à mes filles également, voilà, et qui ont trouvé ce livre absolument passionnant, qui n'est pas du tout daté dans son style, dans son écriture. Et au-delà de la défense des femmes, il aborde le problème des prisons, il aborde le problème de la justice, et on voit.
Et le portrait qu'il fait est effrayant.
Et oui.
À l'époque, alors c'est en 1976, non
72-73, oui. C'est... Et ce qui est intéressant, c'est que...
Rien ne s'est arrangé.
Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Effectivement, c'est un livre qui est encore beaucoup d'actualité, notamment les problématiques des prisons. Donc voilà, donc je trouve surpeuplé. Donc voilà, c'est un des très très beaux romans de Michel de Saint-Pierre qui peut être relu et qui n'est absolument pas daté.
Non, effectivement.
Donc vous savez qu'à l'époque, les constats d'adultère n'existaient que pour les hommes.
Oui.
Et que la femme, si le mari le demandait, pouvait faire de la prison. Et c'est hallucinant.
Oui.
C'est bien pour ça qu'on a créé le MLF. On était bien mieux que MeToo qui fait n'importe quoi.
Ah, vous avez été parmi les créatrices du...
Non, mais
vous avez connu Benoît Groult.
J'ai connu tout le monde, mais j'étais dans la section droit, justement.
Oui.
Et on s'est aussi occupé de faire avoir des droits aux prostituées, qu'on a appelées des travailleuses du sexe. Et elles ont eu des visites médicales. Ben, c'était important.
Mais il faut dire qu'on en
parlait,
avant de commencer l'émission. Mais c'est vrai que votre père, en tout cas, est un homme truculent.
C'est exactement le mot.
Oui. Et son
écriture. Il aimait la vie. Il avait de l'enthousiasme pour tout. C'était incroyable.
Alors c'est un Normand avant tout.
Et nous sommes bretons. Attention.
Mais à la fois breton et normand.
Avant
c'est
breton,
un mélange explosif.
Et normand depuis 5 siècles, mais avant breton.
Oui. Ça laisse des traces,
quoi. Oui, on comprend que le mélange de celte et de germain.
Ah, moi, je tiens beaucoup aussi à dire qu'on est breton aussi.
Oui, non, mais j'ai bien compris. et la propriété familiale était en Normandie ?
Elle a été donnée justement à un condottiere qui s'appelait Guillaume de Grosourdis du Châtel parce qu'il a mené la charge de la chevalerie à Fornoux. Donc c'est un fief qui a été donné par le roi de France, par Louis XII. Ça ne lui a pas coûté cher, c'était un fief en quenouille. Donc il a arrangé le mariage sans demander à qui que ce soit si on était d'accord. Mais on a eu un très bon fief comme ça.
Oui. Et vous habitiez dans la dépendance du château puisqu'il n'existe plus.
C'est mon père, à la demande de ma mère, qui l'a rasé.
Ah bon ? Parce qu'il était impossible de le restaurer.
Pas du tout, il était en très bon état. Mais il n'y avait pas de chauffage et pas beaucoup de sanitaire.
Bah dites donc, c'est radical. Chez les
Mon père faisait les choses pas à moitié.
Effectivement. Sa devise, s'il plaît à Dieu, devise de la famille.
Oui. Macardoué en breton.
C'est magnifique.
Et c'est, comme Thierry le disait très justement, c'est devenu au plaisir de Dieu sous la plume de Jean d'Ormesson. Et c'est plus poétique. Mais il avait demandé la permission à mon père. Parce que Jean était un homme délicieux et courtois.
Il s'entendait très bien.
Très bien.
Et d'ailleurs, il y a une page au sein du livre où on voit effectivement votre père écrire sur Au plaisir de Dieu.
Absolument.
Une page manuscrite.
C'est très bien d'avoir mis tous ces documents. J'en suis très reconnaissante.
Alors, une jeunesse extraordinaire, dans la mesure où, visiblement, il n'aime pas trop les études. Même s'il va quand même à Paris et qu'il a un diplôme de littérature.
Oui.
Mais il va immédiatement embarquer dans la marine.
Et non, on regarde d'abord Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire.
D'abord les chantiers navals et après
Oui, d'abord les chantiers navals, c'est-à-dire...
Et Thierry en parle très bien, parce que c'est important, c'est comme ça que mon père était à l'aise partout. Et il a gardé ses copains de Saint-Nazaire qui avaient émigré au Havre et qu'on continue à voir régulièrement. Et c'était des amitiés vraiment importantes, parce que c'était dur comme travail.
Il était au plus...
Au plus bas niveau,
plus bas niveau dans les chantiers de Saint-Nazaire.
C'est ce qu'il voulait.
Et après, il va naviguer. Il va s'engager dans la marine.
Au plus bas niveau aussi, au début. Oui.
Et ça...
Il a été couleur d'affiche aussi. Il a fait n'importe quoi. Il a été livreur.
Ah oui, non, mais je trouve ça extraordinaire. Et ça a donné lieu à un de ses plus beaux premiers romans, qui est La mer à boire.
Et ce monde ancien est très beau aussi. Vous en parlez très bien, d'ailleurs. Thierry décrit très, très bien l'œuvre de mon père.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, justement?
Oui, alors effectivement, le premier livre, donc Ce monde ancien, qui est effectivement inspiré de la vie de Michel de Saint-Pierre au chantier naval, donc où il y a deux personnages, un Gilles de Lointrain qui est en partie Michel de Saint-Pierre et un autre qui est ouvrier. Et on retrouve Michel de Saint-Pierre chez les deux personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages vivent en parallèle pendant tout le livre et ne se rencontrent en croisant le regard uniquement à la dernière page. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette dualité des deux personnages où je pense qu'on peut dire que c'est Michel de Saint-Pierre se retrouve dans les deux personnages. Donc, ça, c'est Ce monde ancien et le second, La mer à boire. Qui, je pense, personnellement, je trouve, est encore supérieur au monde ancien, et là, qui est inspiré de sa vie de marin au sein de la Marine nationale.
Il a vraiment pénétré véritablement ce qu'est l'esprit marin.
Ah bah quand on lit le livre, effectivement, mais il est quand même resté 4 ans marin.
Il a fait toute la guerre dans la marine.
Oui. Et l'atmosphère à bord d'un bateau, il l'a décrit de façon merveilleuse.
La destinée tragique du marin, l'ennui sur le bateau, qui reste à quai, les mêmes corvées, jour après jour, les bagarres entre matelots, les filles de joie, les rues sombres du port, la beauté de la mer, la solitude et la mélancolie, et l'attente de la guerre pour enfin se battre et cesser de ne rien faire.
Alors effectivement, ça c'est cette attente, on la voit dans le roman, mais c'est effectivement été celle de Michel de Saint-Pierre et de sa génération où, en 1938-1939, tout en la redoutant, c'est quand même une génération qui attendait la guerre en espérant qu'elle n'ait pas lieu et qui a malheureusement eu lieu en 39.
Il s'agissait de se réaliser au maximum. J'ai cru un instant que jouir et jouer suffisait.
C'est effectivement
réaliser au maximum. On peut dire que ça le caractérise toute son existence.
Et Thierry souligne une chose, c'est que la marine était vainqueur et qu'ils n'ont pas du tout admis que le reste de la France était vaincu. Parce qu'eux, ils avaient fait leur travail. Oui. Ça, vous le soulignez très bien.
Oui, c'était cette frustration.
Bien entendu.
Et puis alors, ce qu'on ne connaît pas, bon, évidemment, un grand amoureux de la liberté, votre père.
Ça, mon père n'aimait pas beaucoup les règles. Et quand il travaillait en bureau, vous avez pu voir, Thierry le raconte d'une manière très amusante, son patron était Georges Pompidou, les grands patrons étaient les Rothschild. Mon père n'avait aucun sens de la hiérarchie. Et tout ce qu'il faisait, c'est un concours de poésie, vous en parlez d'une manière très drôle.
Libre, libre, libre des autres comme au premier âge du monde, il y avait sur mon bateau près de 600 hommes seuls. C'est assez étonnant de voir comment... Ah, ensuite, il va s'engager dans la résistance.
Alors effectivement, dès 1941, il rejoint effectivement un réseau de résistance qui est très actif. Donc là, il y a aux archives à Vincennes, il y a tout un dossier Michel de Saint-Pierre qui est très bien fait, qui relate tout son engagement. Et effectivement, il va terminer la guerre avec toutes les décorations.
Et quelle est son activité
beaucoup d'enseignements, l'espionnage...
Oui, vous racontez que c'est eux qui ont pu envoyer à Londres la pièce qu'on ne connaissait pas des V1.
Voilà, juste avant
c'était très important pour fabriquer les missiles entiers.
Mais il dépend des bureaux du colonel Passy, si je ne dis pas de bêtises.
Alors oui, indirectement, effectivement, c'était dans cette logique et dans ces réseaux de résistance. Et donc il finit effectivement la guerre avec toutes les décorations. Je pense qu'il n'aurait pas pu en avoir plus que qu'ont pu avoir les personnes qui, à l'époque, se sont engagées dans la résistance.
Il écrit « Les tribulations de la résistance s'imposent à nous avec une violence, une possession de notre esprit que je n'avais pas imaginée. Les risques étaient toujours là, que nous refusions de mesurer à leur juste valeur et nous opérions, j'ose le dire, dans une sorte de tension sereine, sérénité parce que le jeu de mort nous amusait, tension parce que la France avait besoin du moindre d'entre nous. »
Oui, alors c'est vrai qu'il écrit cela, mais Michel de Saint-Pierre, lui, n'a pas été arrêté, n'a pas été déporté, mais un certain nombre de ses camarades, eux, ont été arrêtés, ont été déportés. Certains sont revenus, mais d'autres, malheureusement, sont morts en déportation ou après avoir été exécutés.
Alors, on ne dit pas, on ne le sait pas souvent, mais il y a eu des relations assez étroites entre Monterland et la famille de Saint-Pierre. Mais également, il y avait des liens avec la famille Poniatowski.
Oui, puisqu'il a épousé la petite sœur de maman.
Oui. Donc, vous avez connu Michel Poniatowski.
On l'a très bien, Giscard et un peu tout le monde, hein, quand même.
Il faut reconnaître.
Et Georges Pompidou et sa femme.
Oui, oui.
Claude.
Ah, ben, vous savez que Madame Pompidou était cliente de la librairie où je travaillais.
Ah, d'accord.
Et que jusqu'à la fin de sa vie, elle achetait des livres pour ses petites filles.
On l'a beaucoup noirci, c'est pas très juste.
C'était une femme incroyablement droite et grande. Très
grande. Très impressionnante.
Voilà. Toujours en pantalon élégant. Voilà.
Absolument.
Et finalement, à la fin de sa vie, assez réactionnaire. Parce qu'elle en avait marre de ce qu'elle voyait à Paris.
Mais on dit ça de mon père aussi. Hein.
Oui. Mais votre père est un écorché vif qui a toujours réagi.
Non, écorché vif, pas du tout. Non. Parce que mon père était absolument joyeux. Mais il voulait la bagarre. Et tout le temps la bagarre. Mais ma mère était un peu épuisée. Hein, et nous, les cinq enfants, on trouvait que ça faisait beaucoup de bagarre quand même.
C'est vrai qu'elle est un peu absente dans le livre, je trouve, cher.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ce vous n'avez pas fait vraiment le portrait de non, Madame de Saint-Pierre.
Non, c'est vrai que je la cite.
Vous n'êtes pas très féministe.
J'explique les circonstances de leur rencontre, leur mariage, le lien après avec la famille Poniatowski. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un des personnages centraux de la biographie.
Alors que ma mère était une femme de caractère, elle était très férue de littérature et d'histoire. C'était la première lectrice de mon père. Et s'il y avait une ligne dans un bouquin qui ne plaisait pas à ma mère, mon père avait intérêt à l'enlever.
Ah bon? Ah, il faisait tout relire avant. Ah, d'accord, d'accord.
Il fait relire à
trois ou quatre personnes. Et vous aviez combien de frères et sœurs?
Nous étions cinq. Malheureusement, mon père
et
a perdu. Mes parents ont perdu un petit frère.
Oui, oui, oui. Oui, et puis il y a le drame du livre Laurent. Enfin, on n'en parlera pas trop. Votre père a écrit dans Témoignages chrétiens.
Oui.
Ça paraît incroyable.
Mais à l'époque, c'était pas gauchiste.
Oui,
c'était
effectivement issu de la résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il tenait la chronique cinématographique.
Oui, oui.
Donc moi, je suis allé compulser tous les documents de tous les exemplaires de Témoignages chrétiens. Et il avait une culture cinématographique extrêmement intéressante, très éclectique.
Ça vaudrait la peine de réunir.
Effectivement, alors il y a un certain nombre de films qui sont oubliés, mais pas tous. Voilà, je cite un certain nombre de films dans le livre dont il a fait la recension, la critique, et c'était un très bon critique cinématographique.
Sauf qu'il aimait trop les westerns. Il m'emmenait tout le temps voir des westerns, j'en avais vraiment assez.
Ah, vous n'en pouvez plus.
Ah non, j'en pouvais plus. Les pistolets, les machins. J'aimais mieux Lucky Luke en bande dessinée, mais pas les westerns.
C'est excellent. Bon, quelle est l'après-guerre de Michel de Saint-Pierre? L'immédiate après-guerre.
Eh bien, l'immédiat après-guerre, il rentre effectivement à Témoignages chrétiens. Il écrit dans un certain nombre de journaux, un journal qui avait été lancé par le comte de Paris.
Oui, Ici France, La Nation française.
Exactement, voilà, avec Pierre Boutangue. Il écrit dans Aspect de la France. Voilà, il a une carrière journalistique qui commence. Et puis,
il est royaliste.
Il est royaliste de cœur, oui, je crois qu'on peut le dire. Oui,
rigoler parce qu'il était après. Il était brouillé avec le comte de Paris. Oui, alors c'est un royaliste un peu à part.
Comme la plupart des royalistes d'ailleurs.
Oui, oui.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Mais dans une de ses dernières déclarations, il fait une profession de foi royaliste magnifique pour dire en quoi le royalisme pour lui est une forme de royalisme à la Raspail. C'est une espèce de refuge par rapport à la politique. Il a sous les yeux.
Mais Raspail était son ami aussi.
Ah ben oui.
Mais on ne peut pas nier que c'est les rois qui ont fait la France et que c'est une, on a un beau pays avec des souvenirs magnifiques. Après, je crois que...
Et puis, il a détesté l'esprit de jalousie. C'est dans le Charette, le portrait qu'il fait de Charette, dans un magnifique ouvrage.
Oui, il est très beau, son Charette.
Il montre ce qu'est véritablement l'âme française.
Enfin. Nous, on a eu une chouannerie normande, vous savez, dont personne ne parle. Et moi, toute ma famille a été décimée à la chouannerie normande. Il restait qu'un petit garçon de 6 ans. Parce que la Révolution, ce n'est pas un génocide. Ils n'ont pas tué les enfants, sauf des exceptions. Et les trois fils ont été fusillés. Et le marquis, César, est mort suite d'une blessure. Et Louis de Frotté a été fusillé aussi.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit
ça a été très cruel.
Il dit qu'on est allé les chercher. C'est-à-dire que Charette, il a fallu que ce soit les paysans qui viennent lui dire « Allez, on y va ».
Oui, c'est vrai. Mais les paysans n'avaient rien contre la cour, ils ne la connaissaient pas. Non. Et bon, la famille n'y rendait pas le roi responsable, tout ça était un petit peu...
Non, non. Alors, le grand livre qui va le faire véritablement connaître, qui va lui attirer quand même une certaine gloire littéraire, ce sont les aristocrates.
Les aristocrates, effectivement, en 1954. Donc, livre déjà très intéressant en lui-même.
Grand prix du roman de l'Académie française.
Et qui sera porté à l'écran avec... Pierre Fresnay, voilà, j'ai cherché son nom. Voilà, donc Pierre Fresnay était quand même un des grands acteurs de cette époque. Alors même si jamais le film s'écarte un petit peu du livre, notamment la fin du film est différente de la fin du livre, mais il est certain que c'est ce livre qui a fait connaître Michel Saint-Pierre et qui a fait de Michel Saint-Pierre ce qu'on appelle un écrivain populaire, hein, au bon sens du terme. Et donc là, effectivement, le cumul du livre et du film qui a eu un succès, eh bien, a permis à Michel Saint-Pierre de vraiment lancer sa carrière littéraire.
Voilà.
Même si, effectivement, il avait déjà écrit avant.
Parce que ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires.
Oui, 600 000 exemplaires.
Oui, quand même.
Alors, vous savez, il y a une chose amusante. Pour la scène de chasse, Pierre Fresnay, qui ne connaissait rien à la chasse, est allé chez c'est un peu le portrait Maubrun, c'est un peu mon grand-père Chavagnac, le père de ma mère. Donc, il est allé au bord, dans leur donjon, et il a demandé à mon grand-père de l'emmener chasser, juste, c'était du chasse avec le chien devant soi. Et il lui a demandé, il est reparti avec sa tenue de chasse, c'est-à-dire un vieux chapeau cabossé, une vieille veste déglinguée, des bottes pas possibles. Et tout ça, il le met dans les aristocrates. Et ça fait que ça fait pas bidon du tout.
Non. Il a porté en fait les vêtements de grand-père, c'est ça, pour s'habituer au personnage. C'est
pour s'habituer et pour voir comment se passait la chasse quand c'était pas des grandes battues mondaines.
Vous considérez que les aristocrates sont allés est un livre quasi autobiographique.
Non, mon père n'a jamais pensé à se remarier, mon père n'était pas veuf.
Les rapports avec les fils dans les aristocrates, ça ressemble pas tellement au rapport de votre grand-père avec Michel de Saint-Pierre, pas vraiment.
Mon grand-père, oui, c'est un peu le portrait de mon grand-père, mais il n'y a pas ce problème d'énorme château. Le château, tout est mélangé. Le château, c'est plutôt Époisse, c'est-à-dire la demeure de ma grand-mère maternelle. Et le marquis de Maubrun, c'est plutôt mon grand-père Jean de Chavagnac. Mais vous savez, quand on écrivait, on fait une cuisine.
Hein. Oui, bien sûr.
Oui, effectivement,
il
commence le livre en disant il n'y a pas du tout, les personnages sont inventés. Enfin, il y a un petit texte de quelques lignes en début de livre, mais effectivement,
tout le monde le fait.
Tout le monde le fait, et généralement, quand c'est fait, c'est précisément parce que ça s'inspire de faits réels.
Tout le roman tente à prouver, au-delà de ses pirouettes, de ses grimaces, de ses haussements d'épaule, que la fin de l'aristocratie française sera, pour la civilisation française, un enlaidissement et un appauvrissement. Mais cette fin date, tout compte fait, du XVIIe siècle. Et elle est l'œuvre des aristocrates eux-mêmes. Dans une société fondée sur l'argent, où seul le plaisir immédiat a du prix, tous les Maubrun de la terre ne peuvent plus se comporter comme des objets étrangers. Leur seule fonction sera de conserver, vaille que vaille, les éléments spirituels d'une autre société, d'une société morte, dont les reflets légers et trompeurs bougent encore sur des monuments, sur des meubles, sur des reliures, au fond de quelques cœurs obstinés.
Alors effectivement, Robert Poulet a fait de très bonnes critiques des livres de Michel de Saint-Pierre. Il était parfois assez critique, parfois assez dur, mais effectivement, cette critique-là des aristocrates est bien tournée et reflète bien effectivement la philosophie du livre.
Oui, pourquoi 17e ? C'est quand même gommé tout le 18e, et oui. C'est, je trouve pas ça juste, moi.
Non. Non, non,
oui, effectivement, il aurait pu dire 18e, c'est vrai. Oui. Ça aurait été mieux. Oui, ça aurait été mieux.
Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, vous savez, même au 19e, il y a eu quand même de beaux...
Mais bien entendu. Et puis juste, on existe encore quand même.
Alors justement, est-ce que le roman Les Aristocrates, Madame de Saint-Pierre, n'a pas donné une image à votre père, Michel de Saint-Pierre, une image d'Aristo qui lui a collé à la peau jusqu'à la fin de sa carrière?
Oui, c'est
au fond,
cette image-là.
Par ailleurs, un homme très moderne, très dans son temps, en fait.
Écoutez, un homme de son temps. Franchement, mon père était... J'ai employé un gros mot, tellement déconnant qu'on ne pouvait pas le penser que c'était un personnage figé et austère. Ouais. Et mon père était aussi à l'aise. Je vais vous raconter une petite histoire.
Oui.
Quand on était tout le temps, au début, justement avant les aristocrates, on était assez fauchés. Et mon père faisait tout le temps des cadeaux à tout le monde. Et toutes les boutiques du coin le connaissaient, il disait « je reviendrai payer ». Et quand quelqu'un venait à la maison pour demander qu'on le paye, la plupart du temps, ma mère n'était pas au courant, et mon père n'avait pas un sou. Alors il me faisait un petit clin d'œil, il me disait « Isor, va à la banque ». La banque, c'était un certain petit Louis, qui était un amour, le clochard de la Madeleine. Et j'allais voir petit Louis, je disais « Petit Louis, on a besoin, combien t'en veux ?» 2 ou 3 billets. Et je repartais. Et après, mon père, évidemment, le remboursait très vite. Et pour le remercier, il m'invitait à une brasserie qui était à côté de la Madeleine, qui s'appelait la brasserie Weber. Et quand le gérant a vu la première fois mon père arriver avec ses gosses, ma mère, elle ne participait pas du tout à ce genre de truc, avec ses gamins et petit Louis, il a été horrifié. Et mon père a dit en se marrant, mais petit Louis, il est beaucoup plus riche que toi et moi réunis. Et petit Louis a dit, oui, je voulais aller me changer, mais monsieur de Saint-Pierre m'a dit de rester en uniforme.
Oui, c'est la bohème à Paris.
Et fait, mon père était comme ça, il était à l'aise avec tout le monde. Donc il ne jouait pas du tout à l'aristo.
Oui.
Si, il pouvait le faire, hein, quand il était à Monaco ou à la cour de Danemark, il se tenait très bien.
Oui, vous en parlez très bien.
De même qu'il s'est tenu très bien devant Pie XII. Quand Pie XII l'a reçu en 1958, à l'occasion de la sortie, de la parution de son livre sur Sainte Bernadette de Lourdes, qui est un des plus beaux livres qu'il ait écrit de vie de saint.
Moi, j'ai écrit Thérèse d'Avila, que je trouve meilleure.
Vous préférez Thérèse d'Avila? C'était une femme plus sensuelle, de toute façon. Thérèse
non,
d'Avila.
C'était une mystique.
Oui, mais, ça mais ne, l'un ne va pas sans l'autre chez Thérèse
mais plus,
d'Avila.
Mais plus instruite.
Oui. Et est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette entrevue?
Alors effectivement, Michel de Saint-Pierre est reçu par le pape Pie XII et l'entretien commence, on va dire, relativement mal puisque le pape lui fait le grief d'avoir...
Je n'ai pas aimé certaines pages de vos premiers romans et j'en crus indigne d'un écrivain catholique. Michel de Saint-Pierre lui répond qu'il a pourtant soumis ses manuscrits à des conseillers religieux. Le pape lui répond « Choisissez les plus durs ». Michel de Saint-Pierre, qui d'habitude a du mal à trouver une répartie, lui répond immédiatement « Il est vrai, très Saint-Père, que je l'ai choisi dans la compagnie de Jésus ». Le pape sourit, la glace est rompue. L'entretien peut se poursuivre. Michel de Saint-Pierre ne tiendra pourtant pas compte de la récrimination de Pie XII et l'abbé Louis Couache lui en fera sévèrement. Reproche.
Voilà, effectivement, donc la scène se passe en 1958 et j'ai retrouvé aux archives une lettre entre Michel de Saint-Pierre et l'abbé Coache. Et donc l'abbé Coache lui dit, mais je vous avais déjà dit...
Qui était un traditionnaliste dur.
Voilà. Et lui dit, je vous ai déjà dit qu'un certain nombre de passages dans vos livres n'étaient pas dignes d'un écrivain catholique, que vous n'en avez pas tenu compte parce que j'ai reçu votre dernier ouvrage, donc je ne sais plus lequel c'était, et il y avait une scène...
Et dans Sainte Colère, il écrit le devoir de l'écrivain est de dire la vérité urbi et orbi.
Mais vous savez, mon père avait beaucoup de sens de la répartie.
Oui.
Il était même assez bavard et quand il commençait à parler, comme moi, c'était difficile de lui couper la parole.
Alors, il faut dire un mot quand même des nouveaux prêtres. Parce que c'est la face, on peut dire justement, des combats religieux de Michel de Saint-Pierre qui voit que les prêtres des années 60-70 envoient tout promener. Bon, la soutane, il y a quand même une sorte... Moi qui étais petit à l'époque, et vous-même, madame, vous avez connu la période, mais je me souviens de choses, d'avoir assisté à des messes, mais surréalistes, enfin, des choses...
Et ils vendaient, vous le disiez très bien, ils vendaient les objets religieux qui n'étaient pas à eux, ils n'avaient pas le droit de les vendre.
Moi, j'en ai retrouvé à la décharge.
C'est
la décharge, il y avait des... Tu avais toutes ces anciennes étoiles. Mmh. Enfin, ces anciennes...
Alors effectivement, il fait paraître donc les nouveaux prêtres au début des années 1960. Le concile n'est pas encore terminé, mais déjà effectivement, il y a une espèce de révolution au sein du clergé.
Alors, c'est plutôt politique à l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont assez rouges.
Oui, voilà, ils sont assez rouges. Voilà. Et puis surtout, effectivement, donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce livre, mais ce sera la même démarche pour ses autres romans. C'est-à-dire que Michel Saint-Père n'est pas seulement dans son bureau à écrire, il va d'abord enquêter sur place. Oui. Voilà. Et donc là, pendant des mois, il va s'immerger dans la banlieue, ce qu'on appelait la banlieue rouge à l'époque, où il va aller au contact des prêtres, il va aller au contact des paroissiens, il va aller dans les églises, il va lire toute la presse que l'on peut trouver dans les églises à l'époque, et après avoir fait cette enquête sur place, eh bien, il va sortir les nouveaux prêtres. Et là, on va dire que c'est véritablement un tir de barrage contre lui. Et donc là, je crois que...
Ça a été effrayant. La croix... Télérama, ils vont jusqu'à dire 313 pages inutiles.
Voilà, un livre qu'on a oublié.
Mon père a été triste de tout ça.
Oui, on sent qu'il a été blessé.
Parce qu'il y a eu de la haine. Et mon père n'était pas haineux dans les nouveaux prêtres.
Pas
il dénonçait des dérives. Mais il n'était pas méchant.
Et effectivement, il y a un très beau... Il y a quelques lignes de Jean Madiran qui sont très belles, où effectivement, Jean Madiran dit que Michel Saint-Pierre a été surpris. Il ne s'attendait pas effectivement à un tel tir de barrage, à une telle haine. Et il a été vraiment, pour la première fois peut-être de sa vie, au contact...
Il a été blessé. Il écrit ce livre, je l'ai pourtant écrit dans l'anxiété et dans la joie. Je l'ai écrit avec amour.
Alors, dans toutes les critiques qui ont été faites, il y a celle, mais sur un ton beaucoup plus mesuré, de Gilbert Cesbron, qui était un ami de Michel de Saint-Pierre. Voilà. Et donc, Gilbert Cesbron indique bien qu'il n'est pas du tout d'accord avec le portrait que Michel de Saint-Pierre fait de ces fameux nouveaux prêtres, mais je dirais que là, il y a une critique sur un ton, je dirais, beaucoup plus feutré, et qui n'est pas du tout la haine qu'il y a pu y avoir, aussi bien de témoignages chrétiens que de la Croix ou d'autres journaux ou d'autres auteurs.
Puis c'est la rupture, évidemment, avec témoignage chrétien. Georges Montaron, qui se montre extrêmement...
violent.
Violent.
Et j'ai plus son nom en tête, il y a un journaliste du Figaro qui a fait un livre suite à la publication des Nouveaux Prêtres, que je cite. Et alors, on parlait tout à l'heure du côté aristocrate, et donc ce journaliste dit, voilà, ben Michel de Saint-Pierre croit connaître le monde ouvrier, qu'il a été manœuvre quelques mois, il croit connaître la pauvreté parce qu'il a été ouvrier quelques mois, mais en réalité, ce n'est qu'un aristocrate. Voilà. Et donc, il y a effectivement dans ce livre également des passages extrêmement durs à l'égard de Michel Saint-Pierre, passages qui, bien évidemment, l'ont heurté et blessé.
Il a quand même eu quelques encouragements de Rome.
Oui. Alors, effectivement, il a reçu des encouragements de Rome. Effectivement, il y a un ensemble de cardinaux, d'évêques qui lui ont dit...
D'ailleurs, une de ses caractéristiques, c'est qu'il restera toujours fidèle à Rome.
Alors, effectivement, Michel de Saint-Pierre...
Il a même désapprouvé l'idée des sacres de Monseigneur Lefebvre.
Voilà, alors, de Monseigneur Lefebvre, oui. Parce que...
Il l'a pas connu.
À deux reprises, il a écrit deux lettres.
Ah, il a écrit plusieurs lettres. Il y a tout,
oui, dans, plus que deux.
Oui, dans la correspondance. Il y a toute une correspondance. Alors, évidemment, Michel de Saint-Pierre étant décédé en 1987 et les sacres ayant eu lieu en 1988, il n'a pas connu les sacres, mais on voit bien qu'effectivement...
Non, mais ça se profilait déjà. Mais tout le monde lui disait. Il disait, attention, il va le faire.
Mais mon père a été viré de Credo, alors que c'est lui qui l'avait fondé, tout
de
même.
Oui, c'est le comble. C'est le comble, effectivement.
Est-ce qu'il n'avait pas une certaine candeur, quand même, dans toute cette situation? Il pensait toujours que tout allait s'arranger, finalement, les choses allaient finir par s'arranger, non?
Oui, il pensait ça, mais en même temps, il adorait la bagarre. Oui.
Monseigneur Lefebvre, il a soutenu...
Des tas de facettes différentes.
En tout cas, le début de Monseigneur Lefebvre, il l'a soutenu énormément. Il a même aidé à rencontrer Paul VI.
Oui, mais c'est vrai,
C'est grâce à lui qu'il
Mais il
ne
voulait pas qu'il désobéisse à Rome.
Non, il voulait bien qu'il résiste à certaines choses, mais il voulait
pas... Aux évêques, pas au pape. Oui. Mais vous le montrez très bien dans le livre.
Oui, c'est très honnête. Très honnête. J'aime beaucoup, à propos justement des nouveaux prêtres, dans votre chapitre « Encouragement de Rome », vous citez Léon Blois. Ouais. Vous avez une belle citation. Alors, je vais le lire. « Jésus, en vingt endroits, lance l'anathème non sur les choses, mais sur les hommes qu'il désigne avec une effrayante précision. Il n'en donne pas moins sa vie pour tous, mais après nous avoir laissé la consigne de parler sur les toits comme il a parlé lui-même. »
Voilà, donc effectivement, suite à la polémique des nouveaux prêtres, Michel de Saint-Pierre se rend à Rome pour effectivement connaître un petit peu la vie, l'opinion des évêques, des grandes personnalités de l'Église sur son livre. Et il y va, il se dit, si jamais je vais à Rome, si Rome me dit de me taire, je me tairai, je ne continuerai pas. Et donc il va à Rome, il reçoit un certain nombre d'encouragements de cardinaux et d'évêques. Et donc il a décidé, suite à ces encouragements, de continuer et de ne pas se taire.
Oui. Bah, il a quand même été traité de chien.
Hein. Oui, mais à Rome, il est très bien reçu, plutôt par les cardinaux conservateurs. C'est Ottaviani, Pizzardo, qu'on va retrouver à la marge droite du concile, en fait.
Mes amis, nous sommes des chiens. Qu'est-ce que ça nous fait à nous, personnellement? Qu'est-ce que ça nous fait, ce mépris des riches, des puissants, des maîtres, du cléricalisme, du conformisme, du modernisme? Je trouve que c'est une très belle citation de Jean Madiran.
De Jean Madiran, voilà. C'est Madiran, c'est pas de...
Ah, peut-être dire quelques mots sur la rencontre avec Madiran, parce que c'est des personnalités quand même très différentes, Madiran et,
alors, effectivement,
et Michel de Saint-Pierre, mais ils se retrouvent au moins sur ce point.
Ils ont été très, très amis.
Très
amis,
oui. Jean...
Il faut dire qu'il avait plein d'esprit, Jean Madiran.
Moi, j'aimais beaucoup. Oui.
Effectivement, ils font connaissance à l'occasion de l'apparition des nouveaux prêtres, puisque suite à l'apparition des nouveaux prêtres, Michel de Saint-Pierre va lancer ce qu'on appelait l'appel aux évêques. Et donc, Jean Madiran va tout à fait se retrouver dans les termes de cet appel. Et à partir de la publication des nouveaux prêtres et de la publication de cet appel, eh bien, Jean Madiran et Michel de Saint-Pierre seront très proches l'un de l'autre, avec deux personnalités très différentes. C'est ce que Mgr Vac dit. Michel de Saint-Pierre avait un côté peut-être plus romantique.
Je ne savais pas que Mgr Vac avait été aussi proche, finalement.
Ah, si, ils sont très, très proches. Hein. Si.
On aurait pu demander une préface de Mgr Vac, d'ailleurs.
Il est venu... Ah, ben oui, c'est dommage. Ah, ben oui. Moi, je suis en relation avec lui. Et il est venu souvent séjourner à Saint-Pierre. Et c'est lui qui a dit la messe.
Sur l'éloge funèbre.
Pour l'enterrement de mon père.
Que vous produisez.
Il était tout jeune à l'époque, alors, Vac.
Oui, il n'avait pas encore fondé tout son séminaire extraordinaire.
Le Christ-Roi.
Mgr Vac écrit: Jean Madiran était un intellectuel, un peu cartésien, à la manière de saint Thomas d'Aquin. Chacun de ses articles constituait une démonstration pour arriver à une conclusion presque infaillible. C'était à ce côté-là. Et Michel de Saint-Pierre était avant tout, lui, un passionné, défendant les êtres qu'il aimait et les valeurs auxquelles il croyait. Ses arguments étaient solides, sans être exempts d'une certaine forme de romantisme, à la Chateaubriand. Jean Madiran avait une certaine raideur, Michel de Saint-Pierre était beaucoup plus charmeur.
Mais ça, il a tellement bien connu mon père qu'il en parle d'une manière très gentille. Oui. Et dans son séminaire, la salle de lecture s'appelle Michel de Saint-Pierre, ce qui est un joli hommage quand même.
Vous lui avez donné des livres alors à la bibliothèque?
Je ne vais pas donner mes livres érotiques, mais oui, Sainte-Thérèse d'Avila, oui.
Bon goût.
Oui. Alors, il va y avoir toute la crise, évidemment, de l'après-concile, dont on parle un peu.
Mais... Et puis, il y a la contre-attaque, c'est-à-dire, je ne sais pas si Thierry l'a évoqué, c'est que, en fait, Mathilde Cruz a écrit un article sur le livre, sur la biographie, en disant qu'il utilise les nouveaux prêtres comme un espèce de moyen, ensuite, d'action et de combat. Ce qu'il n'a pas fait pour tous ses livres, d'ailleurs, je crois. Et il va faire beaucoup de conférences. Enfin, Thierry, vous en parlerez avec
alors,
moi.
Oui, effectivement, suite à la publication des nouveaux prêtres, suite à la polémique, suite aux attaques dont il est l'objet, eh bien, Michel de Saint-Pierre va se faire conférencier. Il va faire un tour de France. Il sera reçu par des publics extrêmement nombreux. Il fera également des réunions à la Mutualité avec Jean Madiran, avec d'autres personnalités. Et donc là, effectivement, on va vraiment être dans la période, c'est un petit peu après les 70, ça va être un peu changé parce qu'on va revenir au roman plus classique, mais effectivement les années 1960, là ça va vraiment être la décennie des combats à la fois politiques et religieux de Michel de Saint-Pierre.
Mais vous soulignez avec un peu de regret, moi c'est mon regret aussi, que pendant 5 ans, il n'a plus écrit de roman.
Il n'a plus écrit de roman.
Donc c'est dommage, parce que mon père était d'abord un romancier.
Il s'est un peu perdu dans tous les combats.
Mais il le dit très bien, lorsqu'il va publier Le Milliardaire, il est interviewé par Pierre de Boisdeffre, et Michel Saint-Pierre explique qu'il est un homme heureux. Parce que quand il se met à sa table de travail pour écrire un roman, c'est vraiment le style qu'il préfère. Il dit qu'il aime bien écrire d'autres, des ouvrages plus polémiques, des essais. Mais vraiment, quand il est en train d'écrire un roman, c'est vraiment là où il se sent le mieux, il est le plus heureux. Donc effectivement, il était, je crois, avant tout romancier, même si il avait, je dirais, tous les talents littéraires, parce qu'il a écrit dans tous les domaines qui peuvent exister dans la matière.
Oui, mais c'est là où il était le meilleur, et c'est à mon avis ça oui. où il avait encore oui. peut-être d'autres choses à oui. donner. Oui. Donc il est perdu 5 ans. Moi, ça m'agace.
Ça m'agace. Il a mais perdu 5 ans et en plus, il a été maltraité.
Moi, parce que si vous voulez, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce
non,
que je... non, parce que si vous voulez, moi, je crois que les nouveaux prêtres, vous voyez, là, on parle de nouveau, les sacres, est-ce qu'il va y avoir des sacres, pas des sacres. On voit que finalement, ce sont des questions qui sont toujours d'actualité. Et c'est très intéressant de relire les nouveaux prêtres parce que ce livre, alors bien sûr, on n'est plus dans les années 60, mais d'un certain côté, on se dit que tout oui. n'a pas totalement changé. Et puis, il y a quand même, si vous voulez,
pour les... Il a quand même apprécié Jean-Paul II.
Ah oui, bien, non, mais bien sûr, oui, évidemment.
C'était
mais si
pas
vous voulez,
Paul VI,
vous
voyez, Paul VI qui avait refusé, entre nous, qui devait le recevoir et dont l'entrevue a été sabotée par celui qui est devenu le cardinal Veuillot.
Exactement, exactement. Voilà. Mais vous voyez, c'est intéressant. Là, vous voyez, il y avait le pèlerinage de Chartres, il y avait 20 000 jeunes qui marchaient, qui, je crois, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, n'avaient pas entendu parler de Michel de Saint-Pierre. Bah, vous voyez, c'est intéressant que pour ces jeunes sachent que si, effectivement, aujourd'hui, ils peuvent faire ce beau pèlerinage, parce qu'il y a des personnes comme Michel de Saint-Pierre, oui, comme Jean Madiran, qui, il y a 40 ans, se sont battus pour...
Voilà. C'est, finalement, c'est une forme de résistance.
Mais Les Nouveaux Prêtres, c'est un livre beau et nécessaire, mais après, il y en a eu trop. Église en ruine, Église en péril, Le ver est dans le fruit. Bon, la passion de la paix de l'an, c'est beau.
Mignot, mais
Avec
André Mignot, André Mignot était vraiment le maire de Versailles. Je crois que c'était quelqu'un
Duchesnay,
de différent.
Ou Duchesnay, non
de Versailles. Parce que vous dites qu'André Mignot était maire de Versailles.
Au Duchesnay, il y a un hôpital André Mignot au Duchesnay.
Ah non, mais c'est Versailles. C'est Versailles.
D'accord.
Et c'est le même.
Ah bah je
pense que si Olivier le dit, ça doit être vrai.
Bon.
Mais le maire de Versailles actuel est très intéressant aussi.
Le maire de Versailles. Je pense qu'il n'est pas tout à fait de même tendance religieuse et politique.
Et celui de Saint-Denis,
vraiment en dérive sur la politique, vraiment.
Non, un petit mot quand même sur la... Parce qu'il reste quasiment plus de temps. Il reste... il reste quand même du temps. Bon, rappelons qu'évidemment, nous sommes sur Radio Courtoisie et que Radio Courtoisie ne vit que de ses auditeurs. Et donc, il faut encourager Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous retrouvons donc nos invités, à savoir Isaure de Saint-Pierre, fille de Michel de Saint-Pierre, Thierry Bouclier, auteur de cette biographie, Michel de Saint-Pierre, une biographie chez Pierre Romana, et notre ami Rémi Perrin, directeur de collection, à qui nous devons finalement cette biographie.
C'est une idée collective. C'est réalisé par Thierry.
C'est une idée que vous m'avez proposée vous-même. Le premier.
Parce qu'il faut quand même rappeler que je connais Rémi depuis plus de 20 ans, parce que je lui dois beaucoup, parce que j'avais, au début des années 2000, fait une biographie de maître Jean-Luc Sévignancourt, et Rémi avait publié cette biographie dans une très belle collection. La biographie avait bien fonctionné. Et donc, depuis, je suis toujours resté en contact avec Rémi, et c'est pour ça que je lui ai proposé de publier cette biographie chez Via Romana.
Alors, parlons de l'audience. Chez le général, auprès du général de Gaulle, qui est une audience très intéressante.
Alors, oui, effectivement, suite à la fin de la guerre d'Algérie, la guerre se termine en 1962, mais il y a un certain nombre de combattants de l'Algérie française qui restent emprisonnés. Michel de Saint-Pierre publie un très bel ouvrage, qui s'appelait « Plaidoyer pour l'amnistie », où il raconte effectivement les conditions de détention d'un certain nombre de prisonniers. Et il plaide effectivement pour que, la guerre étant terminée, eh bien, ceux qui se retrouvent dans le camp des perdants soient libéré. Donc là, on est en 1963. Il apporte son soutien au grand pèlerinage de Chartres qui aura lieu à l'initiative du colonel Rémy, qui rassemblera des milliers de pèlerins, notamment des grandes personnalités. Il y aura le Bachag Boualam qui participera à ce pèlerinage et qui rejoindra la cathédrale de Chartres. Les prisonniers resteront en prison. Et en 1968, Michel de Saint-Pierre décide de contacter contacté le général de Gaulle, qui à l'époque était à l'Élysée, pour le rencontrer. Et dans le souvenir d'une réunion à laquelle Michel Saint-Pierre avait participé en 1945, au moment de la guerre, oui. où le général de Gaulle avait reçu un certain nombre de résistants en leur disant qu'ils avaient acquis, les vrais oui. résistants, avait dit de Gaulle, oui. Ont acquis sur la France et sur, moi, voilà, et sur moi, de Gaulle, en quelque sorte un droit. Donc grosso modo, si un jour vous avez besoin de moi, eh bien oui. venez me voir. On peut traduire ça un petit
ils
peu comme ça.
Ils avaient porte ouverte.
Exactement. Voilà. Et donc, mais c'était quand même un petit peu osé quand même. Voilà, Michel Saint-Pierre prend sa plume, demande à être reçu par le général de Gaulle et effectivement, quelques jours après avoir écrit à l'Élysée, il reçoit...
De Gaulle se montre courtois, ne laissant transparaître que des intentions amicales. « Et alors, dit-il, je vous connais, je vous ai lu, les aristocrates, et cet ouvrage sur la Turquie. » Je ne sais pas d'ailleurs quel est l'ouvrage.
Il y a eu un ouvrage, oui, que oui, Michel Saint-Pierre a fait.
C'est un album avec des photos, il y a d'ailleurs quelques photos de ma mère. Ils avaient été invités à un voyage officiel en Turquie et ils avaient beaucoup aimé ce pays.
Ah, bah oui.
Mais c'est amusant que De Gaulle parle de ce livre qui n'est quand même pas le plus connu.
Ah, bah non, non.
Non, bien sûr.
Je vous ai même entendu, je vous écoute. Michel de Saint-Pierre lui rappelle cette réunion de la résistance, c'est ce que vous disiez. Et au nom de ce double crédit, il tient donc à lui formuler deux requêtes. La première concerne la grâce immédiate et totale du général Salan, son ami. Et la seconde, celle de tous les détenus politiques encore sous les verrous. Rien que ça, lui dit De Gaulle. J'aime beaucoup la réponse. Oui, monsieur le président, rien que ça. Il reste actuellement 56 détenus politiques et tous, bien entendu, en prison pour des faits liés à l'affaire algérienne. Et vous allez me demander également, sans doute, l'amnistie pour ceux qui se trouvent à l'étranger, hors de France, et qui n'osent pas rentrer. Exactement. Un silence s'instaure. Michel de Saint-Pierre observe le visage de son interlocuteur. Il est surpris, voyant une figure allongée, osseuse, pâle, aux joues flasques, au menton fort, à la bouche sensible, aux yeux grossis par des vers anormaux, qui lui semblent tour à tour enjoués et tristes. Le général de Gaulle, en est en pleine possession de ses facultés mentales, mais il est malade, très malade. Soudain, il finit par répondre « Salan sera gracié ».
Mais en dernier.
En dernier.
Le dernier. Le dernier, car il était le chef. Puis il se lance dans une diatribe violente contre lui. Et Michel de Saint-Pierre lui répond « Non, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait par haine, ni esprit de vengeance. Comment expliquer, monsieur le Président, que le général Salan ne vous ait jamais fait ses confidences, tandis qu'il me les a faites à moi. Je vous l'ai dit, il est mon ami, Salan a des défauts, comme les autres, mais ses qualités, je les connais, il est imperturbable, impassible, sans peur et sans nerfs, c'est l'homme le plus calme que j'ai jamais rencontré. Il est incapable, je dis bien incapable, de nourrir des sentiments de haine et de vengeance, fût-ce contre vous. Il a voulu défendre l'Algérie française, il l'a défendue. Mais un homme comme lui, De Gaulle l'interrompt. Alors, comment expliquez-vous cet abominable OAS ? Permettez-moi de vous rappeler ce que disait Valéry à Gide. Ce qui m'a étonné le plus au monde, c'est que personne n'allait jusqu'au bout. Le général Salan est allé jusqu'au bout.
Voilà. Donc l'entretien va durer assez long quand même. Hein,
oui, il est long.
Donc je ne reproduis pas l'intégralité de l'entretien parce que ça aurait été trop long. Mais
il se termine plutôt bien.
Plutôt bien. Voilà. De Gaulle écoute Michel Saint-Pierre.
Il est même un peu perturbé par les arguments de
Michel Saint-Pierre. Oui, mais bon, il faut reconnaître que l'amnistie, je ne pense pas que ce soit, elle attendra un petit peu. Et lorsque l'amnistie sera prononcée,
ce sera dû à 1968
et pas à cet entretien. Mais je trouve que cet entretien est intéressant. Oui. Parce que ça montre bien quand même le courage de Michel de Saint-Pierre, son audace même, parce qu'il faut quand même écrire à De Gaulle, aller se présenter, aller sonner à la porte de l'Élysée pour dire « Vous allez me gracier Salan et tous les membres de l'OAS ». Il fallait le faire, il fallait un certain courage et Michel de Saint-Pierre l'a eu.
Et de fidélité en amitié.
Et
aussi,
de fidélité en amitié. Crois,
ouais. 1968 avec Isor, j'ai noté.
Ah. Ah bon, bah alors là,
c'est un passage du livre. Donc vous êtes... Vous pouvez témoigner de ce qui s'est passé en 1968.
Oui, mais alors Olivier s'appuyait sur le témoignage de mon père qui a beaucoup romancé la chose. Je sais que c'est mon père qui a écrit tout ça. Mais en fait, mon père était en Angola avec ma mère, un voyage officiel. Donc, il n'a absolument pas vu 68. Il n'a rien vu. Il a débarqué chez moi. Et il m'a dit, puisque tu es tout le temps fourré à l'Odéon, pas très content déjà, parce que je travaillais à côté de l'Odéon, tu m'emmènes. Et je dis, mais non, ce n'est pas du tout un endroit pour vous. Je vous voyais, mon père. Oui. Je l'appelais Michel et je le vous voyais. Et il est quand même venu et il n'a rien compris. Il n'a même pas essayé de comprendre. Il est monté sur scène en disant Algérie française. Mais ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le sujet. Mais ce n'est pas, vrai, pas vrai qu'il y a eu des menaces de mort. Ah bon. Mais il y a eu ce geste. Plusieurs...
Ah, quand même,
ça revient plus...
Oui, mais ce n'était pas formulé.
Alors, je précise que le geste en question, c'est un geste de...
De couper la gorge.
De décapitation.
Et moi, j'étais affolée. Et j'ai dit à mes copains, écoutez... Si je fais descendre ici, on est vraiment dans la merde. Et moi, je serais très triste. Et on l'évacue. Mais mon père ne voulait pas être évacué. Il continue à crier Algérie française. Mais vraiment, ce n'était pas de ça. On ne parlait pas de ça.
Non, pas du tout.
Et moi, je suis quand même une fille de 68. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur la place de la femme dans la famille. Que ce n'était pas possible de se marier en disant que l'homme était le chef de famille. C'est ce qu'on disait à l'époque. Que c'était l'homme qui choisissait le lieu de résidence.
Il a fallu attendre 1970 pour qu'une femme... puisse ouvrir son compte bancaire.
Mais oui, mais tout ça, c'était...
C'est incroyable. Hein. Alors, fallait moi, l'autorisation du mari.
Ça ne m'allait pas du tout. Mmh. C'était moi qui gagnais le fric, en plus.
C'était vraiment une bonne chose.
Ça ne m'allait pas du tout. Et mon père n'a pas essayé une seconde de comprendre qu'il y a eu des dérives, il y a eu des abus, mais ça a été un vent de liberté et pour les femmes, de libération. Parce que c'était les lois, on était en retard sur tous les pays. Et la femme comptait pour du beurre. Alors qu'on est belle, intelligente, combative, tout.
Oui, votre père s'intéressait beaucoup à la jeunesse. Il n'était pas complètement... Je pense qu'en mai 68, il y a eu un malentendu.
Il n'a même pas été au courant de ce qui se passait. Il revenait d'Angola, était coincé au Portugal, etc. Ce que vous racontez très bien.
Oui.
Mais il a
même
avait
été envoyé par Salazar.
Oui, ça, je regrette un peu aussi, mais bon.
Non, par rapport à 68, sur la question des femmes, on est tout à fait d'accord. Mais je crois que ce que reprochait, et il l'a très bien exprimé dans une émission apostrophe, je crois que c'est celle où il était face à Cohn-Bendit, où finalement, il trouve qu'il n'y avait pas de grande réflexion politique, philosophique. C'était qu'un chahut, c'était un immense bordel,
c'est
on va dire.
Voilà,
c'était un peu adolescent.
Voilà. Et ce qu'il reprochait un petit peu, c'est que...
Les enfants gâtés.
Pas dire ça parce qu'on a quand même été voir les usines Renault et ils nous ont suivis. Moi, j'étais aux usines Renault. Arrêtez, hein.
Mais à l'Odéon, c'était plutôt des étudiants.
C'était les étudiants. Mais on n'était pas que des enfants gâtés, on bossait
bon,
aussi.
Je vous dis ce qu'on dit.
On dit parfois des sottises.
On
hein.
dit des sottises, et ben voilà.
Non, mais il y a eu des dérives, il y a eu la CAM, il y a eu une liberté sexuelle un peu ridicule.
Oui. Il nous reste 3 minutes. C'est terrible de devoir interrompre... cela. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose
Bien, écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que cette biographie va permettre de faire redécouvrir Michel de Saint-Pierre, car il est effectivement décédé, on fêtera l'année prochaine,
c'est 40
ans.
On n'a pas parlé de ses grands livres comme Les Cavaliers du Vel,
son œuvre est extrêmement riche, je oui. dirais qu'il y en a pour tous les goûts, oui. donc il y a les romans, je dirais des romans classiques, les aristocrates, les nouveaux aristocrates, L'Accusé, vraiment, lisez L'Accusé, c'est un livre magnifique, vous avez effectivement des livre historique, cette très biographie de Charette, Les Cavaliers du Velde qui se passe en Afrique du Sud, il y a les essais.
Tout dernier livre qui est un livre de poésie
non, pas du tout, c'est pas un livre tout. Sur l'édition, ça s'appelle Le Milieu de l'été.
Ah, d'accord.
Et j'étais, en fait, mon père est sorti de l'hôpital en lui disant qu'il était guéri, il était en train de mourir. On a fait une petite fête, moi j'étais en reportage en Bretagne, ma mère m'a dit rentre, je suis arrivée très vite. On a fait une petite fête avec tout ce qu'il aimait, des langoustines et du champagne. Et il était en train de corriger les épreuves du milieu de l'été. Et j'aime beaucoup ce livre, mais il ne l'a pas vu, il est mort dans la nuit.
Oh.
Et il ne l'a pas vu publié. Mais il a corrigé les épreuves jusqu'au dernier mot.
Et a-t-il suivi votre carrière littéraire ?
Oh ben bien sûr, mon père était merveilleux, il suivait la carrière de tous ses enfants. Mais moi,
vous ne trouvez pas Isaure de Saint-Pierre un peu incontrôlable ?
Non, c'est surtout ma mère. À l'adolescence, elle m'a un peu fliquée parce que je sortais, parce que je faisais n'importe quoi. Bon, ça, c'est vrai.
C'était une femme libre.
Oui, mais je trouve que c'est très bien que les femmes soient libres. Mais il a été un très bon père pour tous. Ma petite sœur, qui a 15 ans de moins que moi, elle n'a pas connu le même homme, bien entendu. Oh, mais il était très présent dans sa vie aussi. Et un de mes frères qui était pilote de course, mon père lui a passé ses voitures.
Il a transmis la passion des.
En tout cas, ce qui ressort, c'est que c'était un homme profondément affectif.
Affectueux, mais
et
bon.
Affectueux, voilà.
Et il n'aimait pas faire de la peine. Non, c'était quelqu'un de très gentil.
Vous êtes passionnément
bon, et
amoureux de votre père. C'est beau. C'est,
oui,
c'est,
mon mari me l'a reproché.
En effet. Alors, rappelons donc le livre. Hein, donc Michel de Saint-Pierre, une biographie, Thierry Bouclier. Thierry Bouclier qui va dédicacer très prochainement.
Le samedi 20 juin à la librairie Duquesne, donc dans le 7e,
27
avenue Duquesne, de 14h à 18h, je crois.
Oui. Et puis, vous avez d'autres émissions prévues et d'autres interventions.
Sur Radio Courtoisie et sur TV Liberté.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé
merci
à cette émission.
Et merci à vous d'avoir fait cette émission sur mon père. Je suis très touchée, vraiment.
Merci à vous, madame.
Vous venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, émission préenregistrée le 28 mai 2026 et diffusée pour la première fois mercredi 10 juin 2026 de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.